The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à Hiroshima, toujours en compagnie du précieux Olivier Vieviorca, historien de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 août 1945, les Américains faisaient exploser sur Hiroshima la première bombe atomique lancée en temps de guerre, suivie trois jours plus tard d'une seconde sur Nagasaki. Nous avons vu que ce ne sont pas ces bombes qui amènent le Japon à capituler. Un autre protagoniste est entré dans le conflit, l'Union soviétique. Le 9 août, Staline déclare la guerre au Japon. L'armée rouge envahit la Mandchourie. Le Japon, pris en tenaille entre les bombes atomiques américaines et l'assaut soviétique, se voit acculé à déposer les armes.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito accomplit quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Il s'adresse directement à ses sujets au cours d'un discours radiodiffusé où il reconnaît la capitulation du Japon. Un discours long et alambiqué, rédigé dans une langue que tous les Japonais ne comprennent pas. Et c'est la première fois que les Japonais entendent la voix de leur empereur.
À nos bons et loyaux sujets, après avoir réfléchi profondément à la situation du monde, aux conditions dans lesquelles se trouve notre empire, nous avons décidé d'effectuer le règlement de la situation actuelle en recourant à une mesure extraordinaire. Nous avons ordonné à notre gouvernement d'informer les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et l'URSS que notre empire acceptait les stipulations de leur déclaration commune.
Olivier Vieviorca, c'était donc la voix de l'empereur Hirohito. Comment les Japonais réagissent-ils à cette allocution et qu'est-ce que cet empereur représente pour eux?
Alors cet empereur est logiquement une sorte de dieu vivant, donc vous avez un énorme respect pour l'empereur, même si l'empereur n'assume pas la réalité du pouvoir. On pourrait presque dire qu'il règne et qu'il ne gouverne pas. Cette précision s'impose dans la mesure où le rôle de Hirohito dans la Seconde Guerre mondiale a été extrêmement questionné. Mais comme le note une historienne nippo-américaine, au fond, l'empereur n'a du poids que lorsque les cercles du pouvoir sont divisés. Quand les cercles du pouvoir sont unis, au fond, il a une marge d'intervention qui est extrêmement limitée. Mais là, avec les désastres dans le Pacifique, je pense à Iwo Jima et Okinawa, avec la bombe atomique, avec l'invasion, les cercles du pouvoir japonais se divisent. Une partie souhaite que le Japon se batte jusqu'au bout, une partie, au contraire, souhaite négocier la paix. Et c'est là où, avec cette division, l'empereur va jeter son poids dans la balance et exiger que la paix soit signée. Cette paix, elle est reçue, je dirais, de manière très ambivalente par les Japonais. Toute une partie pleure, parce que cette paix est annonciatrice de défaite, et donc c'est une humiliation. Beaucoup de sacrifices ont été consentis par les militaires, les ouvriers, les femmes, les enfants. Donc c'est bien entendu une catastrophe nationale. En même temps, la guerre s'arrête, c'est aussi un soulagement. Ce sont donc ces sentiments mêlés, je crois, qui caractérisent le Japon en août 1945.
La reddition officielle du Japon sera signée le 2 septembre 1945, marquant aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faudra du temps pour que le monde sache exactement ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki.
Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils ? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix ?
Comment est-ce que les Occidentaux réagissent-ils à la nouvelle Hiroshima ? Effroi, indifférence, juste vengeance ?
En fait, les contemporains n'ont pas pris la mesure de ce que représentait cette arme absolue. Donc c'est un objet peut-être d'admiration, c'est un objet parfois d'amusement. Hein, vous avez une publicité qui dit que même la bombe atomique n'ébranlerait pas la réputation des galeries Barbès. Vous avez quelques esprits lumineux comme Albert Camus qui comprend que quelque chose se joue, comme le stratégiste, l'amiral Jean Castex qui comprend que la guerre va changer de nature. Mais si vous voulez, la nouveauté de la bombe atomique, son caractère révolutionnaire, ne sont pas d'emblée perçus, sinon par une minorité d'esprits éclairés.
Oui, Albert Camus écrit « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie ».
Absolument, mais c'est Camus et tout le monde ne raisonne pas comme Albert Camus.
Non, il a une vision de l'avenir aussi.
Oui, il a une vision de l'avenir. Il faut bien souligner que cette bombe atomique, dans l'esprit de ses utilisateurs, de ses promoteurs, était une sorte de super-bombe qui, au fond, différait des bombes classiques par son degré, mais non par son essence. Et donc la grammaire atomique, l'équilibre de la terreur, la riposte graduée, etc., etc., tout cela va se mettre en place après. C'est une bombe, si vous voulez, qui va amener à une réflexion stratégique postérieurement à son emploi. Et une révolution stratégique copernicienne, puisque l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. Jusqu'à la bombe atomique, on essayait de réfléchir à la meilleure manière d'utiliser les armes. À partir de la bombe atomique, on va réfléchir à la manière de ne pas l'utiliser. Donc vous imaginez effectivement la révolution que cela représente.
La dissuasion nucléaire.
La dissuasion.
Alors j'ai commencé cette série sur Hiroshima en posant la question, Hiroshima a-t-elle été nécessaire pour terminer la guerre ou bien est-ce que les Américains ont voulu faire une démonstration de force face à l'Union soviétique ?
Non, vous avez un petit peu cette thèse et je crois qu'il faut la minorer. Bien entendu, les Américains ne sont pas mécontents de montrer à l'Union soviétique que ce sont les champions. Mais jusqu'en 1946 ou en 1947, le principal ennemi, c'est l'Allemagne. Donc, les États-Unis ne sont pas encore passés à une grammaire de guerre froide. Bien entendu, ils ne sont pas nécessairement enthousiasmés par la manière dont l'Union soviétique se comporte. Mais l'idée, c'est quand même de maintenir un front commun par rapport, d'abord et avant tout, à l'Allemagne, qui, par deux fois, en 1914 et en 1939, a embrasé la planète.
Hiroshima, qui a tué quand même avant tout des civils, est-il un crime de guerre ?
Alors, est-ce que c'est un crime de guerre ? Vous me demandez de me prononcer sur la moralité. C'est une arme qui a provoqué énormément de victimes, qui a provoqué énormément de victimes civiles. On peut effectivement considérer que c'est un crime de guerre puisqu'elle a frappé des civils, mais elle n'a pas non plus frappé que des civils. L'intention n'était pas de frapper des civils. On frappe Hiroshima parce que c'est un centre de commandement, parce que c'est un arsenal important. Ce n'est pas un bombardement de terreur comme ceux que la Royal Air Force déclenche sur l'Allemagne avec l'idée qu'en frappant les populations civiles, on va les désolidariser du régime. Ce n'est pas du tout ça l'intention d'Hiroshima. Ce qui préside à Hiroshima dans l'esprit de Truman, c'est d'abréger la guerre. L'abréger la guerre est donc d'abréger, de limiter le nombre de morts. Côté américain, parce que la perspective d'un débarquement horrifie les dirigeants américains, mais également ménager les vies japonaises, car il est évident que si un débarquement s'était produit, le régime japonais aurait envoyé à la mort des milliers de citoyens et de citoyennes, car les femmes commencent à participer à la défense du, Japon.
Ans, les commémorations se succèdent à Hiroshima pour célébrer la paix et le plus jamais ça, avec notamment la présence des rares derniers survivants, ce qu'on appelle les Ibakusha. Mais Olivier Vievurka, vous écrivez dans votre livre que ces commémorations ont eu tendance à donner du Japon une image victimaire et faire oublier sa propre responsabilité dans la tragédie.
En effet, la manière de commémorer Hiroshima a permis au fond un partage des rôles entre les États-Unis et le Japon. Le Japon peut se présenter comme victime et l'empereur, qui sauve son trône, comme un souverain attentif à la vie de ses sujets. Il n'a pas poursuivi, malgré les injonctions des jusqu'au-boutistes, le combat jusqu'à la dernière cartouche. Quant aux Américains, en affirmant que Hiroshima et Nagasaki ont favorisé la capitulation du Japon, ils se présentent comme les seuls vainqueurs de cette guerre, ce qui permet d'exclure l'Union soviétique du champ à la fois militaire et commémoratif. Donc, effectivement, on a affaire à un storytelling parfaitement efficace, hein, puisque aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens pensent que la reddition japonaise a été provoquée par les armes nucléaires, ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui occulte, bien entendu, l'offensive de l'armée rouge du 9 août 1945.
Les Japonais avaient peur de l'armée rouge.
Les Japonais se rendent, tout simplement parce qu'ils sont confrontés à un choix, subir une occupation soviétique ou subir une occupation américaine. Et donc, vous imaginez le choix qu'ils font.
Merci beaucoup Olivier Vievurka. Pour en savoir plus, je recommande vivement la lecture de votre livre « Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale » édité chez Perrin. Vous êtes aussi l'auteur, avec David Kornbrosa, d'un excellent documentaire pour France 2, « Hiroshima, la course vers l'apocalypse ». C'est la fin pour cette semaine du Fil de l'Histoire, une émission réalisée par Claire Destacan, documentation Frédéric Martin, à la technique Mathias Alléon. L'émission est disponible en podcast sur le site de France Inter et l'application de Radio France. Lundi prochain, je vous retrouve à 14h03 pour débuter une nouvelle série. La question que nous nous poserons la semaine prochaine, comment se fait-il que les Françaises aient dû attendre 1944 pour avoir le droit de voter, un droit qu'elles revendiquent depuis la Révolution française ?